Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Il y aura les sourires, les politesses, les cadeaux, les photos amicales et puis aussi les sujets de tension. Cette visite d'État du président chinois pendant 2 jours est la première en France et en Europe depuis 5 ans. Emmanuel Macron et Xi Jinping se rendront demain dans les Hautes-Pyrénées pour un moment plus personnel, c'est ce que l'on dit. Entre deux anecdotes, il sera question malgré tout d'un rééquilibrage commercial entre l'Europe et la Chine, mais aussi du rôle que joue Pékin dans son soutien à la Russie. Lors de sa dernière visite en Chine, Emmanuel Macron avait déjà tenté de faire pression sur Pékin pour que la Chine joue son rôle vis-à-vis de son voisin russe. Mais avec la puissance chinoise et un régime autocratique, le dialogue reste compliqué. En plein China Gate au Parlement européen, on vient d'ailleurs d'apprendre aujourd'hui que la tête de liste LR aux élections européennes a déposé plainte après une tentative de cyberattaque chinoise. Donc ce soir, nous allons nous interroger sur la nature des relations entre l'Europe et la Chine, la nature des relations entre la France et la Chine, amis ou ennemis, et puis aussi sur la nature des relations entre la Chine et la Russie. Xi Jinping-Poutine, les liaisons dangereuses, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Tertrais, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Citons votre dernier livre, Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion, publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir, Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express, auteur de Dans le piège Nord Stream aux éditions Les Arènes. Dominique André est avec nous, vous êtes journaliste à Radio France, ex-correspondante à Pékin. Je renvoie à l'écoute de votre podcast passionnant, Xi Jinping, l'héritier, sur le site de France Inter et sur toutes les plateformes. Enfin, Pierre Arroche est avec nous, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'Université Queen Mary de Londres. Citons votre livre Dans la forge du monde, comment l'Europe est façonnée par le choc des puissances, publié chez Fayard précisément. On va en parler ce soir du choc des puissances. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Dominique André, parce que vous y étiez. Vous y étiez à l'Élysée pour l'arrivée du président chinois.
Oui.
Bon, c'est une visite d'État classique ou il y a des choses que vous avez remarquées qui différaient un peu de ce que vous avez pu constater par le passé?
Moi, je dirais deux choses. D'abord, son arrivée a été assez remarquée parce que vous avez dû voir les images. Xi Jinping est arrivé dans la fameuse berline prestigieuse et emblématique des dirigeants chinois, la Rongti, la drapeau rouge, qui était la voiture préférée de Mao Tse-tung. Donc, évidemment, la Rongti dans la cour de l'Élysée, ça jette. Et puis, j'ai été aussi assez marquée par le degré de sécurité, de sécurisation de la cour de l'Élysée avec un tireur d'élite dans l'axe de l'arrivée de la voiture de Xi Jinping. Alors, je ne vais pas souvent à l'Élysée, mais je remarque que la protection du président chinois, en Chine d'ailleurs, comme en France, est au maximum.
Mmh. Sur l'agenda tel qu'il est prévu de ces 2 jours de visite, est-ce que c'est d'un classicisme absolu? Est-ce que le fait qu'ils aillent dans les Hautes-Pyrénées, sur un lieu qui est un lieu dans lequel Emmanuel Macron a passé une partie de son enfance, c'est comme ça qu'on fait avec le président chinois?
Oui, ils ont tous fait ça. D'ailleurs, moi, je me souviens très bien notamment de Jacques Chirac, qui avait une relation un peu particulière avec la Chine parce que passionné d'Asie. Jacques Chirac avait emmené le président Jiang Zemin en Corrèze. Et on se souvient de cette photo extraordinaire de Bernadette Chirac dansant la valse avec Jiang Zemin. Donc, il y a toujours un moment un peu personnel avec un président chinois. Et je trouve ça d'ailleurs assez intéressant parce que, vous savez, percer quand même le mystère d'un président chinois, et notamment quelqu'un comme Xi Jinping, qui est assez énigmatique, comment l'approcher, la séquence un peu personnelle permet peut-être de discuter avec lui. C'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre facilement, il est très protégé, il y a beaucoup de monde autour de lui. Cette séquence dans les Hautes-Pyrénées permettra peut-être de discuter d'homme à homme, de président à président.
Ça compte?
Oui, certainement.
Ça compte. Je pose une question qui a l'air naïve, mais est-ce que c'est une mise en scène d'une amitié, d'une relation particulière, ou est-ce qu'à ce stade-là, entre des puissances comme celle-ci, dans le contexte que nous allons ce soir décrypter, est-ce que vraiment à percer le mystère du président chinois, est-ce que ça peut peser dans la nature des discussions?
Je ne sais pas si Emmanuel Macron arrivera à percer le mystère de Xi Jinping. Je ne sais pas si Xi Jinping arrivera à percer le mystère d'Emmanuel Macron. Mais vous avez raison de souligner que la dimension personnelle de ces rencontres est extrêmement importante. Quoi que l'on pense de la Chine, quoi que l'on pense de son président, il est très important que les dirigeants des plus grands pays du monde au sens de leur influence. Ce sont deux pays membres permanents du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, etc. C'est extrêmement important qu'ils puissent se parler d'homme à homme, qu'ils puissent avoir ce moment effectivement privilégié, et ne serait-ce que pour qu'ils se reniflent un petit peu, vous voyez. Et ça, ça fait partie des choses les plus importantes de ces sommets. C'est un sommet, là, pour le coup, un petit peu particulier, parce que, vous savez, très souvent, pour les grandes visites impliquant le président de la République française, que ce soit à l'extérieur ou chez nous, on parle beaucoup de grands contrats. Et là, ce n'est pas du tout le sujet. Ouais. Il y a deux sujets. Un sujet très symbolique, d'abord le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, l'aspect politique, visite d'État. On parlera d'Ukraine, bien sûr, mais la dimension économique, on en parlera, ouais, j'imagine. Elle sera très sino-européenne, beaucoup plus que franco-chinoise. Mm-hmm.
Marion Van Rettegem, sur ces premières images qu'on va voir, on a déjà commencé à les voir en début de journée, et sur cette relation particulière entre deux chefs d'État, on spécule beaucoup à chaque fois qu'on a un chef d'État qui vient sur le territoire, a fortiori quand c'est le président chinois qui semble quand même très mystérieux, un peu à distance, on va le dire comme ça.
Alors, les Chinois sont particulièrement sensibles aux formes, et c'est un renvoi de politesse aussi, le fait que Emmanuel Macron l'invite dans ce lieu dont personne ne savait d'ailleurs que c'était celui du village de sa grand-mère, on l'apprend à cette occasion, mais c'est un renvoi au fait que Xi Jinping avait invité Emmanuel Macron dans son village natal, donc c'est un renvoi de bon procédé qui ne trompe personne, parce qu'il y a quand même, enfin, il y a toujours de l'hypocrisie dans les relations diplomatiques, c'est même le cœur de la chose, mais là il y en a particulièrement, et quand on voit ce qu'on célèbre, comme le rappelait Bruno, c'est-à-dire le 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, si on compare 1964, ce qu'était la Chine en 1964 et à quel point elle avait besoin de la reconnaissance de la France de De Gaulle à l'époque, et ce dont a besoin la France aujourd'hui par rapport à ce que la Chine est devenue, je pense que c'est un résumé de la phénoménale inversion du monde qui est extraordinairement structurante pour le monde d'aujourd'hui, où la Chine a émergé comme la deuxième puissance économique, la deuxième maintenant, elle a été battue par l'Inde, la deuxième puissance démographique, et un acteur clé, un acteur stratégique absolument clé, et notamment clé dans la bataille du Sud global, entre guillemets, contre l'Occident. Donc pour tout ça, c'est extrêmement important.
C'est pour ça que ce soir, nous allons aussi revenir longuement sur, et c'est important dans le contexte géopolitique, hein, sur les relations entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il y est allé de nombreuses fois, hein, ils se sont vus les uns les autres de nombreuses fois ces derniers mois. Pierre Arroche, sur cette visite d'État, sur ce qu'on peut en attendre, le côté à la fois formel et les sujets de crispation.
Oui, sur l'aspect personnel, je voudrais rebondir et peut-être mettre un bémol, parce que il ne faudrait pas non plus se laisser soi-même intoxiquer par la dimension personnelle. On se rappelle que Emmanuel Macron a pensé qu'en invitant le président Poutine au fort de Brégançon, il allait tisser une relation de confiance et arriver à lui faire passer des messages forts. Il avait aussi invité Donald Trump, je crois, le 14 juillet, en pensant aussi qu'il allait établir une relation spéciale. Donc, c'est pas parce qu'un président de la République française invite dans une discussion un peu plus informelle un leader qui va réussir à établir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je suis d'accord sur le fait que c'est intéressant de se comprendre.
Emmanuel Macron croit à cela, visiblement. Si on prend les exemples que vous venez de citer.
C'est pour ça que je me méfie un petit peu. C'est-à-dire qu'il faudrait pas non plus qu'on se dise tout se joue dans cette relation d'homme à homme et tout va se régler. C'est bien de se comprendre, mais il ne faut pas être naïf en s'imaginant qu'on manipule l'autre. On ne manipule rien du tout. Ensuite, sur la symbolique du renversement, et je suis tout à fait d'accord, effectivement, il y a un renversement historique, alors non seulement entre la France et la Chine, mais même entre l'Europe et la Chine. Vous avez cité le livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Si on prend un point de vue de longue durée, au XIXe siècle, c'était la Chine qui considérait qu'elle était instrumentalisée, dominée économiquement par les Européens qui lui imposaient des traités inégaux. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui se demandent est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire dominer, instrumentaliser dans une relation tout à fait à sens unique par la Chine. Donc il y a un peu une parenthèse historique qui se ferme, la Chine qui considère qu'elle reprend la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la première place qu'elle a tenue pendant très longtemps. Et c'est sûr qu'accompagner ce retour de la Chine au plus haut niveau, ça c'est quelque chose de très difficile, parce que les Chinois ont d'énormes attentes sur ce retour.
Est-ce qu'il y a, et on va rentrer dans le détail, hein, des dossiers diplomatiques et économiques, est-ce qu'il y a une relation particulière avec la France? Ou est-ce que lorsqu'il vient en France, il voit l'Europe? On sait qu'il a des relations et qu'il a vu Olaf Scholz, qui s'est rendu en Chine récemment. Est-ce que quel est le responsable européen avec lequel la Chine a des relations les plus fluides?
Disons que la France, pour la Chine, il n'oublie pas qu'il y a du gaullisme en France et qu'elle se veut une puissance d'équilibre, donc elle est censée tenir un peu tête aux États-Unis. Il voit la France comme ça dans l'Europe. Mais en même temps, la France a été rabaissée à son niveau, un niveau plus humble, dans la mesure où ensuite, après Paris, Xi Jinping va en Serbie et en Hongrie. Oui. Ce qui est un rappel quand même de l'agenda politique prioritaire, ou prioritaire en tout cas, qui n'est pas secondaire chez lui, sachant que ce sont deux pays de l'Union européenne qui sont les plus pro-russes. Et en plus, la Hongrie a obtenu l'investissement de la société BYD, BYD, c'est une industrie qui fait des voitures électriques. Enfin, donc l'agenda politique n'est pas purement français dans ce voyage.
Et peut-être que c'est un hasard du calendrier, mais en préparant cette émission, j'ai vu que ça tombait même le jour du 25e anniversaire du bombardement par l'OTAN de l'ambassade de Chine à Belgrade en 99.
Exactement.
Et c'est pas du tout un hasard.
C'est pas du tout un hasard. Moi, je raconte dans mon propre livre, pardon.
Chacun vendra ce soir son livre, je vous promets.
Pas celui que vous avez cité, mais un autre. Qu'il y a deux traumatismes fondateurs, ou en tout cas vécus ou présentés comme tels par la Russie d'une part, par la Chine d'autre part. C'est la guerre du Kosovo qui démarre sans que Moscou y ait donné son assentiment. On est en 1999. Il y a même cette scène extraordinaire où on voit l'avion du ministre des Affaires étrangères russe qui arrive à Washington et qui apprend que la guerre commence, qui fait demi-tour. C'est le demi-tour le plus célèbre de l'aviation, de l'aviation politique. Mais au même moment, effectivement, il y a ce bombardement par erreur, à mon sens, et je pense que les Américains sont sincères quand ils disent que c'était par erreur, de l'ambassade de Chine à Belgrade. Et pour la Chine, qui n'a jamais cru que c'était un accident, c'est un traumatisme fondateur, entre guillemets, parce que ces deux pays, finalement, Moscou et Pékin, se sont dit un jour, ça sera peut-être nous. Et donc, il va inaugurer le plus grand centre culturel chinois d'Europe à cette occasion. Juste un petit parallèle pour répondre à votre question tout à l'heure. Quelque part, il y a un romantisme souvent en France quand on voit la relation avec la Chine et avec la Russie. Certes, nous sommes tous les trois membres permanents du Conseil de sécurité puissance nucléaire. Mais on s'imagine parfois qu'on est encore au temps du général de Gaulle, qu'on est encore dans les années 1960, et c'est vrai vis-à-vis de la Russie comme avec la Chine, on a cette nostalgie d'une relation particulière entre trois pays qui comptent, et je dois dire que parfois, la Russie et la Chine savent nous flatter dans le sens du poil, et parfois ça marche.
Vous vouliez dire un mot sur...
Caresser dans le sens du poil, pardon.
Non, mais moi, je me souviens quand Emmanuel Macron a été élu, vraiment, j'ai vu que les Chinois étaient assez étonnés, intrigués par cet homme jeune, brillant, intellectuel, et donc les Chinois se sont demandé qui il est vraiment. Donc ils étaient, je dirais, presque fascinés. Par ailleurs, la France, c'est quand même la puissance nucléaire dans l'Union européenne. La Chine est une puissance nucléaire, donc deux puissances nucléaires discutent ensemble, et la France est membre permanent du Conseil de sécurité, comme la Chine.
Mais on a vu que sur la partie économique, et on va en parler dans un instant, il y a un lien et un dialogue qui est peut-être plus aisé avec les Allemands. Mais on va en parler, vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. En tout cas, on a bien compris grâce à vous qu'au-delà des sourires, des poignées de main, des photos et de l'échange plus personnel qui aura lieu demain dans les Hautes-Pyrénées, les sujets à aborder sont sensibles, à commencer par le nécessaire rééquilibrage économique entre l'Europe et la très puissante Chine. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
Les honneurs militaires de la France au président chinois dans la cour des Invalides. Une cérémonie que peu d'hôtes du président français connaissent. Un geste d'amitié entre les premières dames devant les caméras, avant un moment plus intime demain à la montagne. Tout est fait pour montrer à l'autre et au monde entier un lien particulier. Comme un an plus tôt à Canton, quand Emmanuel Macron avait été invité à prendre le thé dans l'ancienne résidence du père de Xi Jinping. À peine arrivé sur le sol français hier, le président chinois, dans le Figaro, multiplie les politesses à la France. Ce pays au charme unique, à qui la Chine semble donner des gages économiques.
Nous serons heureux d'avoir davantage de produits agricoles et cosmétiques français de qualité sur le marché chinois.
Adoptant un ton presque rassurant avec les Européens.
Nous comprenons le bouleversement qu'engendre la crise ukrainienne pour les Européens.
Mais voilà, la main tendue chinoise et les honneurs donnés par Paris à Pékin agacent, et notamment à gauche.
On peut discuter avec tout le monde, mais pas de cette manière. Pas en l'amenant dans le village de vacances de l'enfance, dans la maison de l'aïeul. Pas en donnant, comme le dit l'Élysée, un cadre amical. Ce n'est pas notre ami Xi Jinping. Et ce n'est pas en flattant les tyrans qu'on fait preuve de réalisme. On a vu la stratégie d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine, les invitations au fort de Brégançon, la visite du musée de l'Ermitage, le tu, le toi, le camarade, l'ami. Et le résultat, eh bien, aucune influence.
La diplomatie amicale avec la Chine est loin d'être nouvelle. Depuis la première visite officielle d'un président français, Georges Pompidou, en Chine, en 1973, les mêmes questions reviennent année après année. Faut-il inviter le président chinois comme on invite un ami, et même parfois le faire valser avec la première dame ici, en Corrèze? Leçon de politique internationale, signé Jacques Chirac.
Parce qu'on a des choses très sérieuses à discuter. Et il faut créer les conditions qui permettent cette discussion sérieuse. Et cet entretien, ces entretiens en Corrèze, cela a permis des discussions plus longues, plus approfondies, plus libres aussi.
En 2019, Emmanuel Macron revendique la fin d'une certaine naïveté. Les Européens auraient sous-estimé les appétits chinois.
Depuis de nombreuses années, nous avions une approche en ordre dispersé. Et il faut bien le dire, la Chine se jouait de nos divisions. Le temps de la naïveté européenne est révolu.
L'unité de l'Europe face aux géants chinois. Avant la visite de Xi Jinping, le président français a dîné en privé avec Olaf Scholz à Paris. Et ce n'est pas un hasard si à l'Élysée ce matin, la présidente de la Commission européenne était à la table des discussions.
La situation internationale, très clairement, nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois.
Pour que le commerce soit équitable, il faut que chacun ait un accès réciproque au marché de l'autre. Et oui, il y a bien une source d'inquiétude, et nous l'avons montré. Nous défendrons toujours nos entreprises, nos économies, sans hésiter si cela devenait nécessaire.
Après sa venue en France, Xi Jinping ira en Serbie, puis en Hongrie, deux pays européens proches de la Russie.
Alors nous allons revenir sur ce que propose Ursula von der Leyen pour savoir si, si c'est envisageable pour la Chine. Cette question de Sandrine dans le Haut-Rhin, dumping commercial, menace sur Taïwan, flou sur l'origine du Covid, comment encore rester naïf face à la Chine ? Qui répond à cette question? Allez-y, Dominique André.
Non, mais est-ce qu'il y a vraiment de la naïveté? Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'au contraire, je crois qu'on sait absolument ce que veut faire Xi Jinping. Mais comment faire autrement? Il n'y a pas de naïveté. En revanche, il faut bien, je pense, quand même mettre les formes et rester... on a des relations diplomatiques avec la Chine, donc restons diplomates et abordons ces sujets.
Mais quel est le bon mot pour qualifier nos relations? La Chine est un ami, est un allié, c'est un ennemi, c'est un adversaire, c'est un rival systémique. C'est quoi ?
C'est à la fois un partenaire pour la France et c'est un rival systémique pour l'Europe. Et je crois que la réponse, elle est claire aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier, Emmanuel Macron joue clairement la carte de l'Europe. L'Europe lui donne du poids face aux représentants de la deuxième puissance mondiale. Ouais. C'est grâce à l'Europe que la France est plus forte. La France seule face à la Chine, qu'est-ce que ça peut être ? Donc effectivement, l'Europe est effectivement la solution pour la France de pouvoir négocier, discuter sur des sujets diplomatiques ou commerciaux.
Mais on peut imposer une forme de rapport de force, on peut quoi dire ? On est d'accord pour dire partenaire économique ? On peut dire ça ? Ou est-ce que rival systémique, c'est le mot qui est habituellement utilisé par les Européens ? Si on parle de l'économie, on entend Ursula von der Leyen qui dit, bon, c'est bien gentil les Chinois, mais à un moment donné, il va falloir qu'on ait de la réciprocité. Mm-hmm. Donnez-nous un accès à vos marchés, comme nous vous donnons un accès à notre marché européen de 450 millions de consommateurs.
Je dirais que la Chine est notre ennemi incontournable. On n'a pas le droit de dire que c'est un ennemi. On dit en effet que c'est un rival systémique, c'est un partenaire économique absolument indispensable. Mais ce qu'on ne dit pas, et c'est le gros non-dit, c'est que c'est notre ennemi. Et il faut se reporter à, politiquement, idéologiquement, c'est notre ennemi. Il faut se reporter à cette scène extraordinaire de 2022, du 4 février 2022, si je ne me trompe pas, où Vladimir Poutine va rendre visite à Xi Jinping. juste avant les Jeux Olympiques en Chine. Et ils signent entre eux une sorte de pacte qu'ils appellent une amitié sans limite dans tous les domaines.
De la Russie, ouais.
Et cette amitié sans limite vise à instaurer un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire à une remise en cause des institutions héritées de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'Occident est sorti hégémonique selon leur conception. Et ce communiqué, qui vaut la peine d'être lu, est une véritable déclaration de guerre à l'Occident. Ce qu'on peut ajouter au fait que Xi Jinping, dans la guerre en Ukraine, on en parlera sans doute tout à l'heure, vient en soutien, enfin une sorte de neutralité de soutien à la Russie. Et j'en profite pour corriger l'erreur que j'ai dite, la Serbie n'est pas dans l'Union européenne, mais dans l'Europe. Il va ensuite...
Dans l'Europe géographique.
Les Chinois ménagent leurs amitiés avec la Russie, avec la Serbie et la Hongrie, qui sont donc en Europe les deux partenaires de Vladimir Poutine. Donc c'est un... Et Vladimir Poutine, donc la Chine est l'ami de notre ennemi, donc, qui est la Russie qui nous déclare comme un ennemi en tout
alors,
cas.
Alors, on va parler dans un instant de ce qui se passe, qui est passionnant, hein, ce qui se passe en Ukraine et la relation très particulière entre la Chine et la Russie. Mais si on revient sur le rapport de force, est-ce qu'il est possible entre l'Europe et l'ami, rival, adversaire, partenaire chinois?
Oui, dans une certaine mesure. On voyait les images d'Emmanuel Macron en 2019. Il faut quand même lui reconnaître une certaine constance dans ce domaine. Il a été un des premiers chefs d'État et de gouvernement en Europe à dire très clairement que nous devions avoir une relation d'égo entre l'Europe et la Chine. Rappelez-vous, en 2019, justement, c'est là qu'il dit, vous savez, les routes de la soie, elles doivent être à double sens. Oui. C'était une expression intéressante et très symbolique. Encore une fois, il était relativement pionnier dans ce domaine-là à l'époque. J'entendais quelqu'un à l'Élysée, il y a quelques jours, me dire il faut que les Européens comprennent qu'ils ont été, je cite, « les idiots du village global ». Ça voulait dire que finalement, dans cette compétition de prédateurs, les Chinois, les Américains et les Russes, hein, chacun à leur manière, bien entendu, eh bien, nous n'avons pas été assez rapides, justement, dans cette épreuve de force qui aujourd'hui se décide.
Mais on peut l'imposer, Bruno Tertrais, quand vous entendez Ursula von der Leyen ou le président de la République qui dit on peut très bien mettre des taxes aux frontières de l'Europe. Si
exactement.
On peut ne pas importer des produits polluants, par exemple chinois, ou ne pas saturer le marché de l'électrique européen.
En un mot, la Chine a besoin de nous. Pourquoi ? Parce que la Chine est en surcapacité, elle produit énormément avec sa relance économique post-Covid et le marché américain est de plus en plus fermé. Et donc la Chine a besoin d'exporter vers l'Europe. Vous voyez, vous avez probablement vu ces milliers de voitures qui arrivent sur les ports, de voitures électriques qui arrivent sur les ports chinois. Donc la Chine a besoin de nous et si elle ne joue pas le jeu de la libre concurrence, malheureusement c'est rarement le cas avec la Chine, eh bien nous pouvons, nous aussi, comme les Américains, avoir des mesures de rétorsion. Donc oui, une épreuve de force amicale mais ferme est tout à fait possible.
On a les moyens de cela, on a les moyens, on est suffisamment unis à 27, on est tous raccord là-dessus. Et est-ce qu'on a les moyens économiques d'imposer cela aux Chinois ?
Je voudrais revenir sur l'histoire de 2019, parce que ça a été un tournant, et c'est important de dire que ça a été un tournant européen, avant que Emmanuel Macron en parle. En réalité, le premier acteur qui a parlé de rivalité systémique, c'est la Fédération de l'industrie allemande, c'est-à-dire c'est une sorte de patronat allemand qui a dit on n'est plus du tout dans le même système parce qu'on a un pays qui subventionne massivement ses exportations et discrimine chez lui. Donc en fait, la mondialisation, c'est un système à sens unique. Voilà. Ils ont dit ça, il y a eu une communication au mois de mars 2019 de la Commission européenne sur les relations stratégiques entre la Chine et l'Union européenne qui a repris ce terme de rival systémique, et ça a été considéré comme un point de départ. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, c'est devenu un programme qui a déjà largement commencé à être appliqué. Sur les contrôles des investissements étrangers, c'était la Chine qu'on visait. Sur le contrôle des subventions des États tiers, c'est-à-dire ne pas simplement contrôler les subventions que donnent les pays européens, mais aussi les États tiers qui faussent la concurrence, c'était pour la Chine qu'on l'a fait. Sur le principe de la lutte contre la coercition extérieure, c'est-à-dire en fait des contre-sanctions quand on est sanctionné, là aussi ça a été en partie sur la Chine. Donc il y a tout un programme qui s'est d'ailleurs aussi accéléré avec le Covid, parce qu'à ce moment-là, tout le monde a vu en pratique ce que ça voulait dire une rupture des chaînes d'approvisionnement avec la Chine, qui est déjà en grande partie en cours. Donc effectivement, je pense que l'étape aujourd'hui à laquelle on est, c'est peut-être des barrières aussi comme ça, mais aussi la question de l'investissement. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron en a parlé la semaine dernière dans son discours. Il a dit, dans un monde où tout le monde investit énormément...
Il a parlé des Américains aussi.
Voilà, mais bien sûr, les dispositions contre l'inflation. Si les Américains investissent et subventionnent massivement, si les Chinois subventionnent massivement, on ne peut pas être les derniers à jouer selon les règles du jeu. Donc là, il y a une dimension qui est peut-être un point de blocage sur lequel il faut jouer, parce que l'Union européenne, ce n'est pas un grand acteur budgétaire d'un point de vue économique, mais l'idée qu'on pouvait rétablir des barrières et sanctionner, il y a aussi sur la réciprocité, on a maintenant des dispositifs pour sanctionner les entreprises de pays qui discriminent nos entreprises à l'étranger. Donc on a maintenant un arsenal qui commence à être en place, mais maintenant la question, je pense que c'est plus la question des investissements, parce que la dimension financière est importante, surtout si on ne veut pas être tout à fait marginalisé dans ces grands domaines effectivement dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'énergie renouvelable et ou l'intelligence artificielle, où effectivement, là, avec des investissements massifs, on est maintenant marginalisé par les grands acteurs.
On parlait de la surcapacité chinoise, de cette difficulté. Hein, Xi Jinping considère, il dément tout problème de surcapacité chinoise faussant le commerce mondial. C'est pas ça le sujet.
Sur les difficultés de la Chine, on peut rebondir sur une chose, c'est qu'en fait, est-ce que la Chine est aussi puissante qu'on le dit ici? Pas sûr du tout. La Chine aujourd'hui est un pays qui est en difficulté aussi, avec un taux de croissance qui s'est effondré. On est bien loin du miracle chinois et de la croissance économique à deux chiffres. Il y a un taux de chômage extrêmement préoccupant. Depuis l'année dernière, les statistiques de 2023, c'est quand même 20% des jeunes chinois qui sont au chômage. Il y a un problème de fuite des cerveaux en Chine. Donc Xi Jinping aussi aujourd'hui, lui aussi a besoin de l'Union européenne, il a besoin d'investissements occidentaux, il a fait venir des investisseurs américains récemment à Pékin, donc il y a aussi une carte à jouer pour l'Union européenne, et arrêtons aussi de voir les faiblesses de l'Union européenne, on peut aussi regarder d'un peu plus près les faiblesses de la Chine de Xi Jinping, qui n'est pas la Chine non plus. La Chine de Xi Jinping, c'est autre chose que la Chine. Et en ça, d'ailleurs, je ne pense pas que la Chine soit l'ennemi.
Alors, quel mot vous mettez-vous?
Donc, la Chine de Xi Jinping, effectivement, c'est un rival idéologique. C'est vrai que Xi Jinping est dans une campagne mondiale. Il rêve, on connaît le rêve de Xi Jinping d'imposer un nouveau modèle qui est éloigné d'une autre, du modèle démocratique.
Avec ça, des comportements, et on va y revenir, parce que dans un instant, on sera en direct avec Olivier Cadic, qui est sénateur des Français établis hors de France, avec des comportements de la puissante Chine vis-à-vis des intérêts européens, vis-à-vis des élus européens, sur la manière de vouloir déstabiliser nos régimes. Je ne sais pas si le mot ennemi est adapté, mais certains considèrent que la Chine va parfois trop loin dans sa manière de déstabiliser l'Occident.
De contrôle, c'est sûr. Bien sûr qu'il y a un contrôle il y a un contrôle idéologique, effectivement, grâce aux nouvelles technologies qui permettent, effectivement, au régime de Xi Jinping de surveiller, de voir ce qui se passe et d'espionner. Et il y a également le même contrôle en Chine. Des intellectuels chinois, de la dissidence, ce contrôle, en fait, il est partout. Hein. Il n'est pas seulement à l'étranger.
Mais il pose un problème aux Occidentaux, quand même, pour nos terres traits, lorsque ça se passe sur notre territoire.
C'est la moindre des choses. Je pensais justement, en vous écoutant, à ces images que l'on voyait hier soir de l'accueil de Xi Jinping et de l'arrivée dans le quartier des Champs-Élysées. On voyait ces groupes de Chinois très bien organisés, dont l'un des représentants allait donner un entretien, puisqu'une caméra de télévision sollicitait cette personne. Et puis on voit arriver un monsieur qui dit non, pas d'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Parti communiste chinois contrôle ses citoyens aussi en France. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, il y a eu une loi passée en Chine disant que tout citoyen chinois, je dis bien tout citoyen chinois, devait collecter des informations à l'étranger pour l'État. Ça veut dire que tout citoyen chinois est, selon la loi chinoise, un espion en puissance. Je ne vous parle même pas de ce qui est fait en sous-main. Ça fait déjà la première fois, juste une anecdote, la première fois que la Chine a été nommément désigné comme responsable d'une attaque cybernétique majeure en France, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis, ça n'a fait qu'augmenter.
Et cette phrase qu'on a entendu passer tout à l'heure de Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste aux élections européennes, et qui disait qu'il ne faut pas se taire face aux crimes commis par la Chine, ce n'est pas en flattant les tyrans qu'on fait preuve de réalisme. Peut-être un mot sur cette phrase-là, considérant que, à un moment donné, il faut hausser le ton sur les valeurs, sur la question du respect des droits de l'homme, et que ça ne sert plus à rien d'essayer de négocier avec quelqu'un comme Xi Jinping.
D'abord, il y a le principe et il y a le réalisme. mais on ne peut pas non plus être ennemi avec tout le monde en même temps. Donc on a besoin de la Chine et on ne peut pas attaquer sur tous les fronts. Mais en revanche, on ne la ménage pas, je pense, dans les discours. Et d'ailleurs, grâce à Raphaël Glucksmann, en grande partie, le Parlement européen a réussi à faire voter une loi qui interdit l'exportation chinoise des produits fabriqués de manière par le travail forcé des Ouïghours. Donc la Chine, d'ailleurs, c'est bien ce qu'elle nous reproche, c'est de lui dire vertement certaines choses sur le non-respect des droits de l'homme.
Vous pensez que ce sera fait, là ? Vous pensez que dans ce genre de visite d'État, le président de la République, entre la poire et le fromage, peut lui dire ça peut...
L'Élysée a fait savoir, effectivement, que la question des droits de l'homme serait abordée, et traditionnellement, l'Élysée soumet une liste de noms de personnes en difficulté en Chine. On sait, par exemple, que la France a fait sortir des Ouïghours de certains camps de rééducation, de formation, enfin en tout cas de camps de détention au Xinjiang.
On va en parler, on va y revenir dans un instant, mais parlons de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, parce qu'il y a quand même pas mal de passerelles entre ces deux-là. En 2 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, les exportations chinoises ont bondi de 64%, et les Américains en sont convaincus. Sans l'aide de Pékin, Moscou ne pourrait pas tenir, comme il le fait aujourd'hui, le front en Ukraine. Un double jeu chinois dénoncé par l'OTAN. Les Occidentaux qui sont quand même conscients de pouvoir compter sur Xi Jinping pour fixer les lignes rouges à son ami Vladimir Poutine, notamment lorsqu'il est question du nucléaire. Aubry Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
Grand sourire et poignée de main chaleureuse, Vladimir Poutine l'appelle son grand ami et Xi Jinping le lui rend bien. Les présidents chinois et russes s'apprécient, c'est en tout cas le message qu'ils aiment faire passer et les compliments fusent.
Ces dernières années, la Chine a fait un énorme bond en avant dans son développement. Partout dans le monde, cela suscite un réel intérêt et on vous envie même un peu.
Grâce à votre gestion solide, la Russie a réalisé ces dernières années des progrès significatifs vers le succès et la prospérité du pays.
Une rencontre en mars 2023.
Prends soin de toi, mon ami.
Fais bon voyage.
Suivi d'une autre. En octobre. Fin mai, c'est encore en Chine que se rendra le président russe. Un pays qui n'a jamais condamné directement Moscou pour l'invasion de l'Ukraine.
La question de l'Ukraine s'inscrit dans un contexte historique complexe. La Chine adopte une position juste et objective sur cette question et nous nous sommes engagés à promouvoir les pourparlers de paix.
Pourquoi se fâcher quand on peut commercer ? En 2 ans, les exportations de la Chine vers la Russie ont bondi de 64%. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 240 milliards de dollars en 2023, soit plus du double de 2018. Des chiffres qui indignent les Occidentaux.
La Chine affirme vouloir de bonnes relations avec l'Occident. Dans le même temps, Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas gagner sur deux tableaux.
Les États-Unis accusent directement les entreprises chinoises de fournir à Moscou des composants électroniques nécessaires à la production de missiles, de chars et d'avions, ou encore des drones. Pékin dit rester neutre. Washington et Bruxelles l'accusent, au contraire, de soutenir la Russie.
Le président Poutine utilise ses armes pour envahir un pays souverain, démolir son réseau électrique, tuer des femmes, des enfants et des hommes innocents.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour limiter les livraisons à la Russie qui finissent sur le champ de bataille.
Partenariat économique et parfois même militaire, avec des exercices navals communs comme en août dernier dans le Pacifique. Mais en coulisses, selon le Financial Times, Xi Jinping a bien fixé une ligne rouge. En juillet dernier, il aurait mis personnellement en garde Vladimir Poutine sur le recours aux armes nucléaires en Ukraine.
Nous devons respecter strictement notre engagement solennel de ne pas utiliser d'armes nucléaires et de ne pas recourir à la guerre nucléaire.
Ce matin, la Russie brandit pourtant la menace nucléaire sous la forme d'exercices à la frontière ukrainienne. simple réponse aux hypothèses occidentales d'envoi de troupes, justifie le Kremlin.
Il s'agit d'un tout nouveau niveau d'escalade. C'est sans précédent et bien sûr, cela nécessite des mesures et une attention spéciale.
Et c'est encore vers la Chine que se tourne aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour espérer tempérer les menaces nucléaires russes.
Juste un mot rapide avec vous, Bruno Tertrais, sur les exercices militaires organisés à la frontière de l'Ukraine qui concernent la force nucléaire russe.
Ce n'est pas à la frontière de l'Ukraine.
C'est où ?
C'est dans le théâtre sud, donc justement, pas à la frontière.
D'accord.
Les Russes veulent très clairement envoyer une sorte de message, parce que c'est très rare qu'ils fassent ce type d'exercice où ils disent explicitement « nous allons nous entraîner oui. au service des, ce qu'on appelle le service des armes non stratégiques, c'est-à-dire des armes à moyenne portée, si vous voulez. » Ça, c'est très rare que les Russes le savent, mais j'allais dire que l'OTAN le fait aussi, parfois, et l'annonce. Et surtout, les Russes ont pris bien soin de ne pas faire ça, justement, aux frontières de l'Ukraine. Donc, c'est un signal nucléaire très clair, mais ce n'est pas non plus quelque chose de particulièrement
inquiétant. C'est une réponse aux déclarations d'Emmanuel Macron ?
Non, je pense pas. Ça serait... Non, je pense pas que les Russes attachent autant d'importance aux déclarations d'Emmanuel Macron.
Bon. Cette question de Robin dans l'Indre, pouvons-nous nous entendre avec la Chine pour contrer la Russie en Ukraine ?
Je pense que ça, c'est un peu naïf de se demander si la Chine peut nous aider. Et le président de la République a beaucoup parlé d'autonomie stratégique. Et je pense que dans ce contexte, c'est un petit peu comme ça qu'il faut raisonner. Les problèmes des Européens, c'est certainement pas la Chine qui, comme ça a été dit dans l'interview tout à l'heure, profite beaucoup de cette guerre parce que la Russie devient très dépendante de la Chine, parce que ça complique le calcul stratégique des Américains. C'est certainement pas la Chine qui va avoir l'intérêt dominant là-dedans.
Elle peut pas nous aider, entre guillemets, même si ça paraît naïf, en tout cas ça a l'air d'être au cœur quand même des discussions, ouais. à raisonner d'une certaine manière Vladimir Poutine sur ses ambitions en Ukraine.
Il faut qu'il y ait un intérêt. Sur la question du nucléaire, je pense que c'est un petit peu différent, parce D'accord. que je pense que les Chinois n'ont pas envie qu'on parle trop de nucléaire, parce qu'ils ont peur de la prolifération en Asie. Donc ils n'ont pas envie que les Japonais et les Coréens fassent leur bombe nucléaire. Donc ils n'ont pas envie qu'on en parle trop. Mais en revanche, le fait qu'il y ait une guerre qui occupe surtout les Russes et les rendent dépendants et les Occidentaux, c'est pas un problème pour eux. D'ailleurs, si on regarde la façon dont ils ont communiqué sur les idées de paix en Ukraine, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont commencé à en parler de façon très vague quand ils pensaient que l'Ukraine allait prendre le dessus. C'est-à-dire au début de 2023, quand on parlait de contre-offensive ukrainienne, ils ont dit voilà nos principes de paix. Et puis à la fin de l'année 2023, quand ils ont vu que l'offensive ukrainienne avait échoué et qu'on attendait les subsides américains qui n'arrivaient pas, eh bien là, ils ont nommé un nouveau ministre de la Défense qui est revenu sur ce langage en disant on va intensifier la coopération militaire avec nos grands amis russes. Ça veut dire que, en réalité, je pense que, à la limite, ce qui pourrait les faire vraiment intervenir, ce serait sauver la mise aux Russes pour pas que les Russes soient trop affaiblis. Mmh. Et dans l'absolu, ils n'ont pas un intérêt évident à nous aider là-dedans. Et je pense que c'est typiquement un domaine dans lequel on doit faire preuve d'autonomie stratégique, c'est-à-dire nous défendre ce qu'on a à défendre avant de nous demander si des Chinois qui n'ont pas le même intérêt le règlent.
Elle est difficile à lire, la position de la Chine. Dans cette tribune dans le Figaro, Xi Jinping dit qu'il est attaché à l'intégrité territoriale. Bon, très bien, on parle de l'Ukraine, on se dit quand même c'est bizarre. À la non-ingérence, à la coexistence pacifique. Tout l'amènerait à condamner ce qu'a fait la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il n'a pas condamné l'invasion et la guerre en Ukraine.
Parce que la Chine, en permanence, joue sur deux tableaux. Il y a donc son allié politique et idéologique, qui est la Russie. Comme vous le disiez, elle n'a pas envie que la Russie perde. Elle a aussi intérêt, finalement, à ce que la guerre s'éternise. Elle a tout à gagner parce que, d'abord, ça affaiblit l'Occident, qui s'appuie dans l'histoire. Parce qu'entre-temps, elle peut importer du pétrole et des céréales à prix cassé aux Russes. Et parce qu'elle teste un petit peu la faiblesse occidentale pour éventuellement intervenir un jour à Taïwan. Donc elle a plutôt intérêt à ce statu quo qui s'éternise. En revanche, comme on le disait, je ne sais plus si c'était hors antenne ou à l'antenne, elle n'aime pas le désordre.
Oui.
Et donc elle veut maintenir ce... Il ne faut pas que ça déborde parce que c'est quand même un pays commerçant.
Voilà.
Quand je disais, elle joue sur deux tableaux, elle joue donc... Il y a son agenda politique et idéologique, mais il y a son agenda économique. Elle veut des investissements, elle flatte les investisseurs allemands quand ils sont arrivés en délégation avec Olaf Scholz récemment, elle les appelait à investir de toutes ses forces. Donc elle est vraiment sur ces deux terrains et c'est là qu'on a une marge de manœuvre extrêmement étroite pour, comme vous dites, essayer d'influencer la Chine. quel est son intérêt véritablement? Le seul levier que nous avons, c'est que l'Union européenne est le premier marché d'exportation des Chinois. Comme vous disiez, Bruno, aussi, elle a besoin de nous. Nous avons aussi besoin d'elle. C'est ça qui compense. Malheureusement, c'est ce qui nous rend moins...
Et donc, on lui pardonne de livrer des armes à la Russie.
On ne lui pardonne pas. On essaiera, parce qu'il y a en plus une conférence de la paix qui est prévue au mois de juin dans le prolongement du G7 à Genève, ou en Suisse en tout cas. On essaye de faire en sorte que la Chine puisse légèrement appuyer Vladimir Poutine en tant que représentante, elle aussi, de ce Sud global. Mais la marge de manœuvre est très étroite parce qu'encore une fois, la Chine n'a pas véritablement intérêt à ce que cette guerre s'arrête.
Et je cite Emmanuel Macron dans The Economist, dans une interview qu'il a accordée il y a quelques jours. Il dit « Ce n'est pas l'intérêt de la Chine aujourd'hui d'avoir une Russie déstabilisatrice de l'ordre international. Il faudra donc travailler avec elle pour construire la paix. » Sur cet aspect-là, juste avec vous, Dominique.
Moi, je pense qu'en fait, Xi Jinping, il a un objectif qui est celui du Parti communiste chinois, c'est que la Chine devienne la première puissance mondiale en 2049 pour les 100 ans de la fondation. Donc il n'a pas du tout envie de perturber cet agenda qui est prévu par le Parti communiste chinois. Il doit réussir cet objectif. Donc pas de déstabilisation à ses portes, effectivement, pas d'essai nucléaire en Corée du Nord, ce voisin, ce petit frère vraiment trop agité. Il n'a pas envie que la Russie utilise l'arme nucléaire. Ça voudrait dire, ça sous-entendrait que Xi Jinping n'a pas réussi à empêcher effectivement ce risque nucléaire. Donc rien ne doit troubler son agenda personnel également.
Ce qui est quand même extraordinaire, je reprends cette déclaration d'Emmanuel Macron, oui, qui à mon avis est très révélatrice de cette tendance, pas seulement française mais occidentale, à prétendre connaître ce qu'est l'intérêt d'un pays comme la Chine ou de la Russie mieux qu'ils le connaissent eux-mêmes. C'est pas à nous de dire quel est l'intérêt de la Chine, il n'y a que la Chine qui le sait. Et je pense que l'intérêt de la Chine, ce n'est pas du tout ce qui est dans l'entretien au Figaro. La Chine veut, vis-à-vis de la Russie, elle veut, moi, ce que j'appelle une Russie boucle d'or. Vous savez, le conte boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid, ni une Russie ni trop faible, d'accord, ni trop forte. Et comme l'a dit très bien Marion tout à l'heure, une Russie très bien qui fait la guerre, mais pas trop quand même. Mais le plus important, et vous avez montré une courbe très intéressante tout à l'heure, c'est l'augmentation du commerce sino-chinois, sino-russe. Mais ça ne fait qu'accélérer un mouvement qui a déjà commencé en 1999. On dit parfois en France que c'est nous qui poussons la Russie dans les bras de la Chine. C'est absolument faux. C'est un choix commercial, c'est un choix politique de Vladimir Poutine, qui a toujours dit « Nous sommes une puissance eurasienne ». Moralité, on pourra y venir tout à l'heure si vous voulez, mais il est en train de devenir ce que Boris Nemtsov appelait en 2006, Boris Nemtsov assassiné depuis, bien sûr, comme beaucoup d'opposants chinois, une colonie minière de la Chine.
La question qui est posée est-ce que grâce à la Chine, la Russie tient le front en Ukraine? C'est ce que le dit le secrétaire d'État adjoint aux États-Unis. Il dit cela a eu un énorme impact. Nous pensons que cela a contribué à aider la Russie à reconstruire ses capacités militaires.
Oui, mais pas à travers des armes létales, à travers des composants électroniques, ce qui est extrêmement important, à travers des biens à double usage. Mais jusqu'à présent, la Chine s'est abstenue d'envoyer des matériels militaires, on va dire, visibles du tir des chars, des chars et des canons. Voilà, je ne pense pas que... Si elle l'a fait, je pense qu'elle fait très attention. Mais l'assistance qui est déjà fournie, y compris dans le domaine des composants électroniques, est extrêmement importante pour la Russie.
Et on va voir si la Russie et la Chine ont parfois les mêmes méthodes concernant la déstabilisation des puissances occidentales. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a écouté très attentivement depuis le début de l'émission et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Olivier Cadic, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur des Français établis hors de France. En mars 2024, le ministère de la Justice américain a mis en accusation 7 hackers chinois qui auraient visé 116 parlementaires de 15 pays, dont vous.
Tout à fait, absolument.
Qu'est-ce que vous avez appris de la part des Américains ?
Ce que nous avons appris, c'est qu'effectivement, une attaque s'était produite par un email qui avait été envoyé au mois de janvier 2021 aux parlementaires de l'AIPAC, qui est l'alliance interparlementaire des élus qui travaillent sur la Chine, et qui suivent donc les activités de la Chine et puis en particulier du Parti communiste chinois. Mmh. Et donc nous avons appris il y a 3 mois que cette enquête que cette accusation était faite. Cela suivait une enquête du FBI puisque l'enquête du FBI était close et donc l'acte d'accusation a été lancé. Nous avons donc appris que des élus étaient impactés. Moi, comme on m'a parlé de l'email qui était envoyé, j'ai regardé dans mes fichiers et je ne le trouvais pas, donc je considérais que j'avais pas été concerné. En réalité, le FBI a confirmé à l'AIPAC que, effectivement, je faisais partie de cette liste. Et donc, aujourd'hui, on a fait justement une conférence de presse pour expliquer un peu les suites que l'on allait donner à tout ça.
Et alors justement, quelle suite vous voulez donner à tout ça? Parce qu'on précise que c'est un parlementaire français qui est renseigné par le FBI et la justice américaine sur un piratage qui concerne donc un représentant élu de la vie politique française.
Oui, mais le problème, c'est que le FBI nous a annoncé qu'il avait informé les services de renseignement de chaque pays pour les parlementaires qui étaient concernés, les 15 pays. Qu'il se trouve que nous n'avons pas été informés, qu'il se trouve que je suis justement en charge de tout ce qui est cybersécurité et cyberdéfense au Sénat et que donc j'auditionne l'ANSSI et le SGDSN chaque année et que donc il paraît quand même très étrange qu'alors que je les auditionne chaque année, qu'ils ne m'avertissent pas que j'ai été ciblé et que des parlementaires ont été ciblés. Donc ça pose un problème d'information. L'administration est censée nous protéger. Donc, il y a une question qui se pose de pourquoi nous n'avons pas été informés. Est-ce que, j'ai expliqué que dans le cas de ma mission, puisque le Parlement contrôle l'action du gouvernement, donc nous allons commencer à étudier ce qui s'est passé. Il s'avère que dans certains pays, le gouvernement lui-même n'aurait pas été informé par ses services. Donc, ça pose un certain nombre de questions et donc c'est ce que nous devons expertiser.
Et vous tenez cette conférence de presse aujourd'hui même et vous êtes aujourd'hui même avec nous en direct sur le plateau de C'est dans l'air, alors que la tête de liste, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes, a porté plainte après une tentative de cyberattaque chinoise. Quel regard, nous ce soir nous sommes en discussion sur la visite du président chinois en France, sur les relations et naturellement entre l'Europe et la Chine, sur cet aspect-là de l'offensive chinoise dans le terme cyber, en termes de volonté de déstabilisation, même d'espionnage, de déstabilisation à la veille des élections européennes. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus et une crainte peut-être à exprimer ?
Dans le cadre de l'attaque, en fait, François-Xavier Bellamy a été impacté comme d'autres membres du Parlement européen, d'après ce que je crois. C'est exactement la même attaque. Ça montre l'ampleur. C'est un acte de cyberguerre évident qui a été concrétisé. Alors maintenant, la question, effectivement, il faut les participants ont très très bien décrit la situation, les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Orwell disait la dictature.
Pardonnez-moi, je vous coupe, Olivier Cadic, mais vous considérez que ces attaques dont vous avez fait l'objet, celles dont a fait l'objet François-Xavier Bellamy et d'autres élus au Parlement européen venant de la Chine, sont peut-être insuffisamment prises en compte, peut-être dans la relation qu'on établit avec la Chine? On n'en parle pas assez? On ne le dénonce pas suffisamment?
La guerre hybride qui intègre ces actions a été définie, une doctrine a été présentée par le Pentagone dès 2017. Donc on sait très bien à quoi on a affaire, que la guerre a changé de nature, qu'aujourd'hui, effectivement, Pékin présente une vérité alternative et un discours alternatif et propose un schéma qui met en avant le développement devant les droits humains. Il conteste l'approche des démocraties. Et donc, nous sommes confrontés effectivement à une guerre systémique. Et donc, aujourd'hui, la question pour nous, c'est de défendre notre modèle et de vérifier que nos services sont suffisamment, je dirais, forts pour pouvoir résister à l'attaque massive qui est produite contre nous.
Merci, je vous presse un petit peu, pardonnez-moi, mais il faudrait qu'on aille maintenant au troisième reportage. Merci d'avoir été en direct avec nous pour nous raconter l'expérience dont vous avez fait l'objet, cette attaque cyber venant de la Chine, tout comme la Russie d'ailleurs. La Chine utilise aussi son réseau d'espions pour s'ingérer dans les affaires nationales des pays occidentaux, des méthodes agressives racontées dans ce reportage de Nicolas Bidard, Claire Blondiot et Stéphane Lopez.
Deux hommes ont été inculpés pour violation de secret de sécurité nationale. Ils sont soupçonnés de travailler pour le compte de la Chine.
Des inculpations au Royaume-Uni et des arrestations en Allemagne.
Le parquet fédéral allemand vient d'arrêter 3 Allemands soupçonnés d'espionnage pour Pékin.
Un assistant parlementaire d'un député européen allemand, candidat de l'AfD aux élections européennes, a été arrêté. Il travaillerait pour la Chine.
Des affaires d'espionnage qui se multiplient en Europe. Même si en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz préfère, lui, ne désigner aucun responsable.
Nous ne pouvons accepter l'espionnage à notre encontre, quel que soit le pays d'où il provient. C'est pourquoi il faut l'identifier et les responsables doivent être arrêtés et traduits en justice.
Pékin joue la carte de l'indignation et nie toute implication.
Nous espérons que la justice allemande abandonnera sa mentalité de guerre froide et cessera d'utiliser la soi-disant menace d'espionnage pour se livrer à des manipulations politiques contre la Chine.
Pourtant, l'Europe est bien une cible privilégiée des espions de Pékin. En décembre dernier, le site d'information allemand Der Spiegel, le quotidien britannique Financial Times et le journal français Le Monde publient une enquête. Un ex-député belge d'extrême droite, Frank Kreyelman, a effectué des missions de renseignement pendant au moins 3 ans à la demande d'un agent chinois surnommé Daniel Wu, un membre du ministère de la Sécurité de l'État qui compte 100 000 employés, les deux hommes échangeaient par SMS.
Il y a une action à faire. J'aurais besoin de votre aide.
Ok, dites-moi.
C'est à propos de Taïwan. Le Parlement régional de Bruxelles va discuter d'une loi de partenariat avec Taïwan. Je me demande s'il y a quelqu'un qui pourrait voter contre au Parlement à Bruxelles.
Ce journaliste du Monde a épluché la centaine de messages échangés entre les deux hommes.
Frank Kreyelman, qui a un peu plus de 60 ans, qui a eu une carrière en politique dans le parti d'extrême droite Vlaamse Belang, a finalement un gros réseau, que ce soit au sein de la politique belge, au sein de la politique européenne, donc au Parlement européen, et même ailleurs, à l'étranger. On voit qu'il a beaucoup de contacts au Vatican, par exemple. Et Daniel Wu lui demande souvent de prendre contact avec des gens, de faire passer des messages, de potentiellement recruter des sources.
Frank Kreyelman est sollicité pour relayer les éléments de langage de Pékin, au sein même du Parlement belge, en passant par son frère, Steven Kreyelman, député en fonction.
Je viens d'envoyer une question à mon frère à propos de la diaspora hongkongaise.
Pardon, vous voulez dire que votre frère va parler du problème de la diaspora hongkongaise devant le Parlement fédéral belge ?
Oui.
En contrepartie, Frank Kreyelman est rémunéré en crypto-monnaie. À l'argent s'ajouterait une motivation idéologique.
Le parti d'extrême droite belge, le Vlaamse Belang, a plutôt des positionnements qui sont en faveur de la Chine, mais comme en faveur de la Russie. En tout cas, ils soutiennent beaucoup plus ces régimes non démocratiques que ne le ferait un parti de centre-droit ou un parti de centre-gauche.
En France, les renseignements ont renforcé leur vigilance face aux menaces d'espionnage chinois, ce qui pousse Pékin à employer des techniques plus sophistiquées qu'auparavant, selon ce spécialiste.
Vous êtes approché par un chasseur de tête qui vous explique que vous avez un profil qui correspond à ce que recherche l'un de leurs clients. Donc il vous invite à passer des entretiens, voir des tests psychotechniques, etc. Donc vous, tests dans lesquels vous délivrez à la fois beaucoup d'informations sur votre personnalité, mais aussi sur votre employeur actuel, sur vos fonctions actuelles, ce qui permet aux services de renseignement de recueillir des informations sur votre environnement, mais aussi sur votre employeur qui peut être la cible d'une opération.
L'espionnage chinois monte aussi en puissance via des attaques informatiques. Plus de 17 000 Français aurait été hameçonné à travers les réseaux sociaux.
Je voudrais avoir votre réaction, Bruno Tertrais, à ce reportage. Et puis je précise juste, puisqu'on a parlé de la Russie et de la Chine et de l'engagement, Emmanuel Macron a évoqué ce sujet-là avec le président chinois. Il vient de saluer l'engagement chinois à s'abstenir de vendre des armes à Moscou. Faut-il croire cet engagement ?
Non, mais il est obligé de le saluer. Alors attendez, d'abord, tout est une question d'interprétation. Vendre des armes, de quoi parle-t-on ? Les composants électroniques très précieux, encore une fois, pour la Russie, ce ne sont pas des armes. Les drones, ça peut être des drones civils, mais qui sont détournés, entre guillemets. Ensuite, je repensais à quelque chose dont on n'a pas parlé. Un journaliste français, Antoine Isambard, avait révélé pour la première fois, on en a reparlé il y a une semaine, le fait qu'il y ait un taux de mariage assez troublant entre chinoises et officiers de la marine, ou marins, pas forcément officiers, à Brest et dans les environs. Brest, il ne vous aura pas échappé que c'est le QG de la force océanique stratégique, notamment, enfin, c'est la grande place forte, avec Toulon, de la marine française. Ce taux est assez étonnant. Et évidemment que depuis très longtemps, depuis déjà une vingtaine d'années, il y a des campagnes de recrutement, voilà, ce qu'on appelle dans le jargon de l'espionnage, le honey trap, c'est-à-dire le piège à miel, c'est l'expression consacrée, ça semble toujours fonctionner. Alors je ne dis pas que certains d'entre eux ne sont pas sincèrement, totalement amoureux. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur toutes les jeunes chinoises en France, mais je rappelle quand même, encore une fois, parce que ça ne se sait pas assez, que tous les Chinois, en France comme ailleurs, sont censés faire du renseignement sur le pays dont ils sont pour le compte du Parti communiste.
Pierre Haroche, sur ce qu'on vient de voir, le reportage et sur la phrase d'Emmanuel Macron.
Oui, je voudrais faire une remarque qui relie un petit peu les sujets. Je pense que la Chine se prépare à la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont décidé de quand ça aurait lieu, etc. Mais ils se préparent à la guerre. À faire la guerre avec les États-Unis.
À Taïwan ?
À Taïwan. Et pour cette raison, ils sont obligés d'avoir un comportement économique très compliqué parce qu'en fait, ils se préparent à des sanctions massives. Et ça, c'est déjà quelque chose qui se disent entre eux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je n'achète pas tout à fait l'argument « oui, ils seront toujours pour la stabilité, etc. » Un argument qu'on entend de plus en plus en Chine, c'est « la sécurité, c'est au moins aussi important ». Pourquoi ? Parce que la croissance économique arrive un petit peu à des limites au bout d'un moment. Et la légitimité du Parti communiste, ça devient aussi la capacité à reprendre Taïwan. Xi Jinping n'arrête pas de dire « c'est la mission historique qui fera notre réussite à notre génération ». Donc il y a quand même ça. Il faut se préparer à des sanctions massives et donc à être très indépendant, ne pas dépendre trop des autres et peut-être même rendre les autres dépendants à notre égard pour qu'ils aient pas intérêt à nous mettre des sanctions. Et puis deuxièmement, sur la relation avec la Russie, ce qui est aussi un problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils demanderont aux Russes le jour où ils feront la guerre. Est-ce qu'ils se coordonneront avec les Russes en disant « vous faites une attaque contre l'OTAN pendant que nous, on est en guerre en Asie, comme ça on sait que les États-Unis ne sauront pas où donner de la tête, et puis ça mettra la difficulté ». Voilà. Et on a appris quand même par le renseignement américain ces derniers jours que la Chine essaye d'impliquer maintenant les Russes dans ces exercices autour de Taïwan. Ils veulent coordonner leur stratégie en direction de la guerre. Là encore, ça ne veut pas dire qu'elle est décidée, mais c'est quelque chose pour lequel ils se préparent.
Ils ont un ennemi commun, l'Occident, ou ils ont un ennemi commun, les États-Unis ?
L'objectif, clairement, des Chinois, c'est de détrôner les États-Unis. Alors évidemment, si les Russes sont dans cette situation aujourd'hui, la question, c'est comment faire en sorte que les États-Unis soient le plus faible possible quand il s'agira de faire la guerre avec les Chinois. Et le renseignement, c'est exactement pareil. Ce sont des options qu'on place. Il faut un maximum d'influence, un maximum d'espions, un maximum aussi d'espionnage qui peut être par les infrastructures. Toute l'histoire qu'on a entendue avec Huawei et les liens avec l'armée de libération populaire chinoise, c'était aussi avoir des éléments pour savoir ce qui se passe et éventuellement être capable de couper le robinet à un moment sensible. Donc ils prennent des options, ça ne veut pas dire qu'ils ont décidé d'être agressifs, mais ils veulent un maximum de contrôle parce qu'ils se préparent quand même à une confrontation et ça c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Ce n'est pas simplement un rival systémique, c'est aussi un acteur qui se prépare à la confrontation.
Puisqu'on parle de confrontation, cette déclaration, et ça nous donnera l'occasion d'en reparler dans de futurs C'est dans l'air, j'en suis sûr, du patron des services de renseignement allemand qui dit ça dans le Financial Times, qui dit la Russie semble désormais prête à mener des opérations sur le sol européen avec un potentiel de dégâts élevé. On voit bien qu'il y a une montée en tension, on parlait de la Chine, mais aussi de son allié russe. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit sur les ambitions de la Chine qui se prépare à faire la guerre ?
À Taïwan ? Ouais. C'est difficile de savoir si la Chine va intervenir ou pas militairement à Taïwan. Moi, ce que je vois, c'est que dans le passé, la Chine, effectivement, en fait, qu'est-ce qu'elle ne supporte pas à Taïwan ? C'est d'avoir en face d'elle, près de ses côtes, un autre modèle chinois. Et cet autre modèle chinois, c'est un modèle démocratique, pas forcément occidental. Mais ça veut dire que notre Chine est possible.
Attention.
Et ça peut être une Chine qui vote. Et d'ailleurs, pour être allé plusieurs fois couvrir les élections à Taïwan, j'ai souvent vu des jeunes qui venaient du mainland, de la Chine continentale, et qui venaient dans les bureaux de vote pour dire comment ça se passe quand on vote, j'ai envie de voir. Voilà, donc c'est sûr que le Parti communiste ne veut pas d'un autre modèle chinois. Ils ont essayé de récupérer Taïwan autrement, économiquement, grâce au Kuomintang. Les indépendantistes de Tsai Ing-wen sont arrivés, et là, effectivement, Xi Jinping a commencé à se prononcer sur une éventuelle intervention militaire, reprendre Taïwan,
et il s'y prépare.
Revenir Taïwan dans le giron de la mère patrie, de façon militaire. – Mais pas sûr. Peut-être que la stratégie...
En tout cas, il y a beaucoup de démonstrations dans la région, non, démonstrations de force.
La récupération de Taïwan sera peut-être différente, pas forcément par l'armée.
Il y a beaucoup de questions ce soir. Vous voulez intervenir?
Non, juste un mot. Je ne crois pas que la Chine, à brève ou moyenne échéance, soit en mesure de dicter son comportement militaire à la Russie. Je crois que, Pierre, vous avez utilisé une formule un petit peu rapide en disant, tiens, peut-être qu'ils vont se diviser le travail, toi tu fais ça, moi je fais ça. Non, il n'y a pas de traité d'alliance formel entre les deux, il n'y a pas d'engagement de défense entre les deux. Au minimum, au mieux, il y a une sorte de pacte Molotov-Ribbentrop, si vous voulez, pacte de non-agression, mais c'est déjà suffisamment inquiétant. Ouais. Peut-être qu'à terme, la Russie deviendra tellement dépendante de la Chine que la Chine pourra lui faire suivre. Je dis souvent en plaisantant à moitié que peut-être qu'à un moment, le destin de Vladimir Poutine, ça deviendra d'être le Dark Vador par rapport à l'empereur Palpatine qu'est Xi Jinping, c'est-à-dire ça deviendra son obligé, l'exécuteur de ses basses œuvres. Peut-être, ça c'est Star Wars, hein, la guerre des étoiles, pour ceux qui n'ont pas la référence, mais on n'en est pas là et je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils vont se coordonner pour faire la guerre en même temps.
En tout cas, ce qu'il y avait dans ce que disait Pierre Arroche aussi, je me permets dites-moi si j'ai bien compris, c'était de dire de toute façon, il ne pourrait pas y avoir deux fronts pour les Américains, il ne pourrait pas y avoir deux fronts, c'est-à-dire un front en Ukraine et un front
en Indo-Pacifique. C'est justement ça qui est compliqué.
Voilà.
Et d'une certaine manière, il y a déjà deux fronts. Vous avez vu quand on votait le supplémental, les membres du Congrès disaient qu'est-ce qu'on donne à Taïwan, qu'est-ce qu'on donne à l'Ukraine. Donc quand on prépare
c'est
la guerre...
C'est une fragilité américaine. Hein, allez, on poursuit avec vos questions. Ce voyage est-il français ou européen pour Xi Jinping ?
Il est franco-européen puisque Ursula von der Leyen était aussi présente.
Et Olaf Scholz est venu vendredi
à la rotonde, pour dîner à la rotonde, hein, entre autres. Mais Olaf Scholz s'était allé en Pékin précédemment.
Emmanuel Macron n'en fait-il pas un peu trop en emmenant Xi Jinping dans les Pyrénées ? Qu'espère-t-il ?
Moi, je pense qu'il faut... je pense que c'est bien parce qu'il faut sortir des éléments de langage un peu figés. Et dans les Pyrénées, c'est l'occasion de se dire les choses plus directement, plus qu'à l'Élysée.
Sommes-nous en train de faire avec Xi Jinping les mêmes erreurs qu'avec Poutine ? C'est une bonne question.
Les Allemands sont un peu sur cette pente, en tout cas sur la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, comme ils l'ont été vis-à-vis de la Russie. La grande différence entre la Chine et la Russie, c'est que l'Europe a prouvé qu'elle pouvait se passer de la Russie. En revanche, nous ne sommes pas prêts de pouvoir nous passer de la Chine.
L'Europe devrait fermer son marché à la Chine tant que les Chinois alimentent la Russie. Macron pourrait-il s'engager dans cette voie ? On peut faire ça ? Dire maintenant, c'est fini.
Mais non, on ne peut pas le faire. D'abord, on peut le faire qu'en Européen, encore une fois. Le problème de l'Europe, c'est que finalement, elle va avoir le choix entre sa transition géopolitique, sa transition écologique. Si vous voulez, on a le choix entre jouer le jeu de l'épreuve de force avec la Chine pour notre propre bien et accepter que si on veut très rapidement des voitures électriques pas chères, des panneaux solaires pas chers et des éoliennes pas chères, ben, il n'y a qu'en Chine qu'on puisse le faire. C'est ça, je trouve, un des grands dilemmes de l'Europe. Je ne sais pas comment on va le résoudre.
Emmanuel Macron et Xi Jinping vont-ils parler des menaces nucléaires russes ?
Bon. De toute façon, la position chinoise, là, pour le coup, elle est claire. Ils ont dit plusieurs fois, oui, on ne veut pas que le nucléaire soit même utilisé comme une menace, etc.
Les Chinois partagent-ils la vision russe d'un Occident décadent ? Avec vous sur cette question.
Oui, je pense. En tout cas, le Parti communiste chinois, certainement, oui, effectivement, c'est dans leurs éléments de langage. Ils considèrent que les démocraties occidentales sont faibles et que c'est un modèle sans doute un peu dépassé, d'où le rêve chinois de Xi Jinping d'un nouveau modèle avec la complicité de Vladimir Poutine.
Est-ce que les Chinois se méfient de nous autant que nous d'eux ?
Alors ça dépend de qui, parce que dans la rue, je trouve que le peuple chinois n'est pas du tout anti-français, alors que le peuple français est peut-être anti-chinois. Ça, j'ai toujours été assez étonnée par cette opposition. Ensuite, oui, le Parti communiste chinois se méfie de l'Europe et se méfie de l'Occident, bien sûr.
Quel rapport de force peut créer Emmanuel Macron pour faire bouger Xi Jinping ?
Le seul levier de rapport de force dont il dispose, c'est le marché européen.
Les 450 millions de consommateurs européens, que vient réellement faire Xi Jinping en France en sachant qu'ensuite, il ira en Serbie puis en Hongrie, des pays proches de la Russie ?
Moi, j'espère que ce n'est pas simplement parce que Emmanuel Macron a parlé d'autonomie stratégique la dernière fois en se disant que peut-être ça allait nous distancier des États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que j'espère qu'on a des choses où on peut affirmer notre position et pas simplement être vu comme le maillon faible.
Ah, il y avait cette question avec un brin de malice. Si la Chine attaque Taïwan, Macron sera-t-il aussi ferme avec Xi Jinping qu'avec Poutine ? On n'en est pas encore là. Merci.
Je pense que oui.
Oui, vous pensez que oui ?
Je pense que oui.
Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.